dans l'épître aux Galates, si vous voulez bien, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, Galates chapitre 5 et le verset 22, et voici ce que nous lisons, Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. » Alors ce matin, nous allons parler de ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Pour nous aider dans notre compréhension, nous allons lire un autre passage qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15e. Et le Seigneur Jésus lui-même va parler de ce fruit-là. Alors nous lisons au chapitre 15 et au verset 1er de l'Évangile selon Jean, et nous lisons ceci. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance par le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons parlé. Et nous comprenons bien une chose, mes frères et sœurs, c'est que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas au salut que nous avons rencontré en Jésus-Christ. Bien sûr, nous voulons placer cette date extraordinaire de la révélation de Jésus dans nos vies comme le tournant, le virage capital de notre existence. Nous étions morts dans nos péchés, destinés à la ruine éternelle, mais voici, nous avons découvert la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alléluia, et là tout a changé. Amen. C'est une vie nouvelle, c'est la grâce de Dieu, et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à ce salut merveilleux. Parce que l'Écriture nous dit ceci, et nous l'avons lu ensemble, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur. Il nous est dit, vous serez mes disciples. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans notre vie des progrès de fait avec le Seigneur, des progrès dans notre caractère. C'est ce que le Seigneur appelle ici le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, vous avez vu, ce sont des choses très carrées, que l'on peut comprendre aisément, l'amour, la paix, la joie, la patience. Seigneur, j'ai besoin de ta patience. Oui ou non? J'ai besoin de bienveillance, de regarder mon prochain, même celui qui a des yeux un petit peu compliqués lorsqu'il me regarde, de le traiter avec amour, alléluia, avec respect, avec bienveillance, d'être fidèle, alléluia. Et toutes ces choses, on peut les nommer également, eh bien, par un autre mot, c'est la sanctification. La sanctification, c'est le fait de laisser le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur, dans notre vie, et c'est la vie normale d'un chrétien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. À quoi ça servirait à quelqu'un d'avoir rencontré Jésus-Christ, qu'il est sorti de ses péchés et qu'il continue à jurer comme un charretier, ou qu'il continue à être addict à certaines choses, à l'alcool, à des images impures? On comprend que, bien sûr, le Seigneur, eh bien, nous accepte tel que nous sommes, et il fait grâce. Dieu a donné sa vie pour les pécheurs, alléluia. Mais il y a l'évangile de la grâce et il y a l'évangile de la gloire, alléluia. Dieu te transforme, te change, alléluia. Et je m'aperçois que pour ma vie, le Seigneur n'a pas fini encore de travailler. Je suis toujours en chantier. Vous voyez, hein? Et des fois, j'ai envie de dire, oui, ta parole est une lumière sur mon sentier, mais ta parole est une lumière sur mon chantier. Hein? Montre-moi par ta parole que je suis toujours en chantier. Hein? J'ai besoin, eh bien, d'avancer. Et l'Écriture nous dit dans Hébreux 12, 14 que cette sanctification, c'est-à-dire ce travail de Dieu pour me rendre semblable, eh bien, à lui, on va le voir dans un instant, eh bien, il est essentiel pour mon salut, parce que l'Écriture nous dit que personne ne verra Dieu s'il n'y a pas la sanctification dans notre cœur. Comprenons que c'est quelque chose d'important, et plusieurs peuvent dire, mais et je m'aperçois que dans nos vies, de chaque jour, nos vies devant le Seigneur en tant que frères et sœurs, mais aussi devant Dieu, s'aperçoit qu'on a besoin de faire des progrès, et parfois certains se plaignent, disant... je porte pas suffisamment de fruits. Vous avez remarqué que la volonté du Seigneur dans ce que nous avons lu, c'est que nous portions du fruit, verset 2 dans Jean 15, c'est que nous portions beaucoup de fruits, verset 5, et le verset 3, encore plus de fruits. Vous voyez, le Seigneur ne veut pas se limiter à une petite amélioration de nos vies, mais il veut qu'il y ait une transformation totale, alléluia, et une régénération sans cesse par le Saint-Esprit. Et certains, et peut-être on se met tous dedans, hein. Seigneur, comment ça se fait que je me mets si facilement en colère? Ça vous est jamais arrivé, ça? Seigneur, comment ça se fait que parfois j'ai du mal à pardonner comme toi tu pardonnes? Parce que quand même, moi aussi j'ai profité de ton pardon. Alors si je suis sauvé par pure grâce, par ton pardon, mais je ne devrais pas avoir de problème à pardonner, et pourtant, il n'y a que moi. Ou alors, certains pourraient dire, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à me défaire de certains compromis. Je sais qu'il y a des choses que le Seigneur n'apprécie pas, et pourtant c'est comme ça dans ma vie, et veut comprendre et se remettre en question devant le Seigneur, parce que vous avez remarqué dans ce texte, il nous est dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne porte pas de fruits, il est retranché. On va le voir ça ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment une action du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, malgré tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, même mon salut peut être remis en question. Souvenez-vous que le Seigneur, lorsqu'il va parler du pardon, je reparle parce que c'est quand même quelque chose d'assez essentiel, mais et qu'il enseigne sur la prière, il dit ceci, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus, pas non plus vos offenses. Et pardonner, ça fait partie du fruit de l'Esprit, qui n'est pas de rancœur à l'égard des uns ou des autres, d'une certaine situation, Seigneur. Et on se pose la question, et alors, je commence peut-être par la conclusion, mais pour vous encourager, nous encourager tous ensemble, il y a un secret à tout ça, alléluia, pour que nos vies portent du fruit. Parce que si, ça serait simplement dire, voilà, il faut que vous portiez du fruit, que c'était un objectif inatteignable, on serait malheureux, mais le Seigneur, il n'est pas comme ça, alléluia, il ne nous fait pas miroiter des choses pour ne pas nous les donner. Mais au contraire, le secret, il est révélé. Au verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ah, ben voilà le secret. Sans toi, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'améliorer. Je ne peux pas me changer. Je n'y arriverai pas. Mais avec toi, Seigneur, oui, c'est possible. Alléluia. Et je peux porter du fruit. Amen. Et je voudrais que nous puissions penser quelques instants à parler de ce fruit et à comprendre l'origine de ce fruit, à comprendre le caractère également, la nature de ce fruit, à comprendre que nous sommes destinés à être des porteurs de ce fruit, qu'il y a des bénéficiaires également pour ce fruit. C'est-à-dire qu'au travers de toi, mon frère, ma soeur, eh bien, il y a un plan de Dieu qui doit s'enclencher pour que d'autres goûtent à ce fruit merveilleux qui est l'amour, eh bien, du Seigneur envers tous les hommes. Et tout d'abord, je voudrais vous dire, eh bien, que ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul est extrêmement précis. Il dit pas c'est le fruit de la nature humaine, c'est le fruit de vos cogitations, c'est le fruit de vos expériences, c'est le fruit de je ne sais quoi, de vos lectures. Non, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ce fruit, il a une origine divine. Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui le fait et qui le fabrique, qui le fait germer, qui le fait pousser, qui le fait croître, eh bien, dans ta vie. Et je pose une question, mais au juste, qu'est-ce que c'est le fruit? Qu'est-ce que c'est le fruit? Je vais vous donner ma réponse, d'une manière aussi un peu biblique et spirituelle. Oui, parce que j'ai réfléchi. Bernadette, elle sourit. Je pose des questions, mais j'ai réfléchi à la réponse. Bien, le fruit, c'est la manifestation de la vie. C'est la manifestation de la vie. C'est l'expression de la vie. Un arbre qui porte du fruit, c'est un arbre qui est en bonne santé, c'est un arbre qui est intéressant parce que l'agriculteur va pouvoir compter sur cet arbre pour qu'il y ait une production et voilà. Par contre, un arbre qui ne porte pas de fruits, désolé de le dire, mais c'est un arbre qui ne sert à rien. D'ailleurs, dans une parabole, il nous est parlé d'un figuier qui était stérile et le propriétaire de la vigne où se trouve ce figuier demande à son ouvrier de le couper parce qu'il ne porte pas de fruits. Et l'ouvrier tempère en disant « je vais y mettre du fumier, de l'engrais, etc. et on va voir cette année s'il porte du fruit. » Mais s'il ne porte pas de fruits, eh bien, il faudra le couper. Je me souviens qu'au début du service de Dieu, un frère qui était extrêmement sévère et rigoureux nous disait ceci, mais vous devez porter du fruit, vous les frères. Parce que ce n'est pas le tout de prêcher sur une estrade. Voilà. Et il faut que votre service soit confirmé par des fruits. Et des fruits, c'est aussi des âmes sauvées, que votre des malades qui sont guéris, une prédication qui change la vie. Parce que, et c'est là où on tremblait un petit peu, disait parce que si vous portez du fruit, pas de fruit, pardon, bien vous prenez la place de quelqu'un d'autre qui, lui, doit porter du fruit. Alors on s'est remis, je me souviens, Seigneur, mais fais-moi porter du fruit, tu m'as appelé maintenant. J'ai besoin que la prédication de l'évangile, c'est pas de la poésie, c'est pas un chant, c'est la parole de Dieu, alléluia! Elle doit produire du fruit, eh bien, dans notre vie, alléluia. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est la manifestation en nous de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Et ça nous parle d'une chose, c'est que nous avons besoin de considérer alors ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Et pour ça, il y a une réponse merveilleuse. Et nous tous qui avons accepté le Seigneur, eh bien, on peut découvrir tout cela dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et Jésus dira de lui-même, celui qui m'a vu, a vu le Père. L'apôtre Paul, dans 1 Colossiens 1, verset 15, dira ceci, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, eh bien, il met en visible ce qui était caché. Il nous rend visible la nature de Dieu. Qui est Dieu? Il est le Fils. Et Jean, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 18, dira, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Et l'épître aux Hébreux dira ceci également, le Fils, il est le reflet de la gloire du Père, de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne, alléluia. Donc en Jésus, on découvre qui est Dieu. Et que fait Christ? Quelle est son œuvre? Eh bien, l'œuvre qui le rend unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'il est mort et il est ressuscité, alléluia. Et il est ressuscité d'une vie qui ne pourra jamais plus mourir, il est vivant à jamais, alléluia. et c'est le Fils éternel, c'est le Fils unique, eh bien, de Dieu. Et on comprend une chose aussi, c'est que lorsque Jésus s'intéresse à nos vies, que nous nous intéressons plutôt au Seigneur et que nous venons vers lui et que lui agit en nous, la chose qu'il fait, c'est il nous rend vivants devant lui. Alléluia! Nous l'avons chanté, mais par son sang précieux, il nous a lavé de nos péchés. Nous pouvons entrer, eh bien, dans la communion avec notre Père Céleste et nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! La vie a commencé à partir du moment où j'ai rencontré Jésus. Alléluia! Amen, alléluia. La vie éternelle, la vie avec Dieu, cette paix, alléluia. Et vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que cette vie, elle ne dépend pas de mon passé, elle ne dépend pas de ma couleur de peau, elle ne dépend pas de mon compte en banque, elle ne dépend même pas de mes péchés, elle dépend de lui. Alléluia. Là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé, il a mis la vie. Alléluia. Amen. Et nous voulons dire merci, Seigneur, parce que, eh bien, toi, tu mets la vie. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand le Saint-Esprit révèle à ton cœur Jésus qui agit en toi, il exprime également par la nouvelle naissance, eh bien, une vie nouvelle, une nouvelle nature, celle de Christ. Et cela te pousse même à porter du fruit, même si tu t'en aperçois pas. Ta vie, elle change. À partir du moment où tu as rencontré le Seigneur, à partir du moment où Jésus est entré dans ta vie, eh bien, une vie nouvelle. Et je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais les exemples sont extrêmement nombreux dans l'Écriture pour nous montrer des hommes qui étaient face à des échecs. Je pense à Abraham avec sa femme, Sarah, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourtant, il y avait la promesse, mais enfin, la promesse, elle passe aussi par Sarah. Et Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant parce que la promesse, c'est d'avoir une postérité. Comment faire ? Oui, mais Dieu va changer le mal en bien, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Abraham, eh bien, plaça sa foi en Dieu qui ressuscite les morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et espérant contre toute espérance, il crut, il vit la gloire de Dieu, amen. Et dans le sein de Sarah, là où il y avait la mort, la vie est venue, alléluia. Et nous, notre foi, c'est celle-ci. Seigneur, j'ai peut-être eu une enfant, j'ai peut-être eu un passé où tout a été saccagé, c'était mort, détruit, mais toi, Seigneur, tu me relèves, alléluia. Amen. Tu es le Dieu de la résurrection. Alléluia. Et ce que tu fais, eh bien, c'est que tu produis la vie. Seigneur, mon frère Lazare est mort et je parle comme si j'étais Marie. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Et elle pleure, Marie. C'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, je peux pas me résoudre à la mort. Certains avec un caractère religieux y arrivent très bien. Bon, c'est pas grave, il est mort. On a fait l'enterrement, ça s'est bien passé. Bon, voilà, Seigneur, tu aurais pu venir, c'est vrai. Bon, il y a eu un miracle, mais bon, voilà. Maintenant, on sait que il ressuscitera, voilà, on ne sait pas quand, c'est la vie éternelle, voilà. Et Jésus lui dit, mais moi, je suis la résurrection, la vie. Et pour Marie, c'est pas quelque chose... Elle le comprend, je suis, c'est maintenant. Et vous savez la suite. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là où il y a la mort, il y a la vie. Parce que c'est Jésus qui agit. Alléluia. Ne dis pas tout est mort. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est que, eh bien, lorsque on est en Jésus, mais on se met à porter du fruit. Alléluia. Il y a un fruit qui jaillit. Et le Seigneur est extrêmement sévère pour dire, mais celui qui me rencontre, sa vie doit changer. Ou alors ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il s'oppose. Ça veut dire qu'il ne veut pas changer. Il ne veut pas se laisser transformer. Il ne veut pas de la vie. Il ne veut pas être réconcilié. Alors si dans ce cas-là, les choses sont ainsi, il n'a rien à faire avec moi. Et il est coupé. Le texte, il est terrible, hein, parce que le sarment, il tombe à terre, il sèche, on le ramasse, et le texte nous dit, il brûle, point. Il brûle, ça se termine comme ça. Terrible, hein ? Mes frères et sœurs, voulons porter du fruit. La nature de ce fruit, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre quand on se tourne vers le Seigneur et qu'on laisse le Saint-Esprit agir ? Eh bien, ce que Jésus fait et ce qu'il est, il révèle l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Alléluia. Et le fruit de l'Esprit, le fruit de... C'est bien sûr, mais vous le savez par cœur, c'est l'amour, alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour, alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, alléluia. Et cet amour, il est riche, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la joie, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a la maîtrise de soi. Ce sont des choses merveilleuses. Alors nous découvrons que ce fruit manifeste ce que Dieu fait, ce que Dieu est en Jésus-Christ. Il met la vie, tu deviens vivant pour Dieu, il y a cette relation, il y a cette communion, ça y est, ça passe, et c'est exprimé, eh bien, et c'est l'amour du Seigneur, alléluia. Et la source, eh bien, c'est Jésus-Christ, alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit prend de ce qui est à Christ et il te le communique, et toi, eh bien, tu fais naître ce fruit, eh bien, dans ta vie. Et je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que ce n'est pas de la morale. C'est pas de la morale, c'est la puissance de Dieu, alléluia. Je prends quelques exemples dans l'Écriture. Une femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vous vous souvenez? 5 mariages et un petit ami, amertume. Ça, c'est avant de rencontrer Jésus. Après avoir rencontré le Seigneur, elle est joyeuse d'annoncer Jésus. Autre cas, Saul de Tarse, vous vous souvenez? Avant de rencontrer Jésus, un homme haineux. Un haineux de chez haineux, un violent. Après sa rencontre avec le Seigneur, prêt à donner sa vie. Prêt à donner sa vie pour les chrétiens, pour le Seigneur. Jean chapitre 21, Pierre, avant cette rencontre avec le Seigneur, un rétrograde qui a renié 3 fois le maître. Après sa rencontre avec Jésus, un serviteur zélé rétabli qui n'est plus sous le joug de la culpabilité, mais un homme qui va être courageux et qui va affirmer, eh bien, sa foi jusque dans les tribunaux, eh bien, de juifs radicaux. Et puis, dans chapitre 24, des disciples, les disciples d'Emmaüs, dans le désespoir, ils ne comprennent rien à rien. Ça, c'est avant de rencontrer Jésus. Après l'avoir rencontré, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui ont retrouvé courage, force et une foi à déplacer les montagnes, et en pleine nuit, ils vont annoncer que Jésus-Christ est vivant. Et entre les deux, dans toutes ces situations, que ce soit pour la Samaritaine, pour Saul de Tarse, pour Pierre, pour les disciples d'Emmaüs, entre les deux, il y a une rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le point commun pour toutes ces situations, en Jésus, ce qu'ils trouvent, ils trouvent non pas celui qui les condamne, ils trouvent celui qui les aime et qui les comprend. La femme samaritaine, elle se sent aimée par Jésus. Alléluia. Et Jésus lui parle d'adorer le Père, en esprit, en vérité. Saul de Tarse, il découvre que Dieu l'aime malgré sa violence. Ça le désarme totalement. Pierre, tu m'aimes. Si tu m'aimes, c'est Pierre, parce que tu sais, moi je t'aime. Hein. Seigneur, tu sais toutes choses. Et comment tu peux me dire tu m'aimes? Tu sais ce que je t'ai fait. Il est rétabli dans son amour avec le Seigneur. Alléluia. Les disciples d'Emmaüs, un amour pour les ignorants. Et on comprend que tous au contact de Jésus, eh bien, sont devenus des personnes nouvelles, ont été complètement changées, ont été complètement transformées, parce que c'est l'amour de Dieu, eh bien, qui les a transformés, qui les a changés. Et ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est de revenir auprès du cèpe. Ce cèpe, vous savez, quand on le voit germer, cette espèce de tronc, eh bien, qui n'est pas très joli, qui est ras du sol et qui n'est pas très beau. Mais l'Écriture nous dit, et tout à l'heure le frère citait Ésaïe 53, Jésus, l'homme de douleur et de souffrance, il s'est élevé comme une faible plante sur une terre desséchée, aride, sans eau, méprisé, homme de douleur et de souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous avons détourné les regards. Nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu, jugé. Cependant, ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et quand on découvre un amour aussi extraordinaire, tout change. Amen. Alléluia. Tout change. Je voudrais vous donner une expérience que j'ai faite il y a quelque temps, eh bien, en arrière. J'étais là un jeudi matin, je travaillais à la parole de Dieu. J'étais bien dans mon bureau. J'étais bien. Et alors, je lisais la Bible. Il y a des avantages d'être pasteur, quand même. Hein. Voilà. Hein. On lit la Bible, on a un bureau. Alors, et puis en plus, j'étais content parce que l'église, elle travaillait. Il y avait des frères et sœurs qui étaient à Oasis, là-bas. Ils étaient en train de distribuer. C'est bon aussi, c'est du fruit, ça, pour l'église. Amen. Le stand public. Alors, il y avait Oasis, tout ça, là. Et bon, voilà, gloire à Dieu. Je crois que c'est Daniel et Nadine qui frappent à ma porte de bureau. Ils viennent me voir. Il a une tête un peu, Daniel, pas inquiet, mais enfin, c'est pas la tête des beaux jours. Si tu as quelque chose à te dire, viens, est-ce que tu peux venir? Je les suis. Moi, j'étais bien, moi, avec le Seigneur, la Bible, tout ça. Bon, je les suis, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, il m'amène au garage, là, et puis c'est vrai, bon, alors, ça arrive, hein. La porte du garage a été forcée. Et alors, on avait des vélos, les enfants, etc. Et on nous les a tous volés. Ah, c'est comme ça, je me suis dit, ça devait arriver, hein. Alors, ils étaient embêtés. Et moi, là, j'étais bien avec le Seigneur. Comprenez ce que je veux dire? J'étais dans l'amour du Seigneur, avec sa paix, etc. Écoutez, j'ai dit, mais c'est pas grave, écoutez, c'est que du matériel. Hein. Alors, le frère, il a réparé rapido ça. Hein. Il m'a mis un nouveau verrou. Hein, voilà. Gloire au Seigneur. Mais j'ai trouvé une chose, c'est que, simplement parce que c'est pas grand chose ça, qui n'a pas été cambriolé chez lui, dans sa cave, etc. Plusieurs d'entre nous, bien sûr. Mais j'ai découvert, eh bien, là, ce que je veux mettre en évidence plutôt, eh bien, au travers de cette simple expérience, c'est que c'est ça le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que cette vie intérieure, cette vie spirituelle, cette transformation, ça vient pas de moi, ça vient de Jésus. J'étais bien avec Jésus. Alléluia. Et les choses du dehors n'ont pas pu entamer cet amour et cette paix. Alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ensuite j'ai pu en parler tranquillement aux enfants. Ah, ils l'ont pris bien aussi. Voilà. Et puis la vie continue. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et tout cela pour que nous puissions, eh bien, apprendre à marcher avec le Seigneur. Et on comprend que ce contact avec le Seigneur nous transforme totalement. Et la vraie sanctification, elle commence là. Parce que alors là, réagir comme cela, je me suis dit, ça, c'est un caractère sanctifié. Oui ou non? Ce que la loi est incapable de produire, parce que tu dois le faire, sinon attention, mais ça ne change pas le cœur. Mais là, tu es dans l'amour du Seigneur, et parce que tu es aimé de Dieu, ton caractère, il est sanctifié. Alléluia. Tu n'as même plus de place pour la colère envers ces gamins qui ont fait cette effraction. Tu as plutôt envie de prier pour lui, pour eux, pour dire, mais Seigneur, les parents, ils doivent se faire un sang d'encre à savoir que leurs enfants sont dans la rue en train de faire des coups, etc. Seigneur, sors-les de la rue. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Protège-nous, d'accord, Seigneur. Mais moi, je sais que je suis sauvé, mais eux, ils vont où, Seigneur? Ils sont la proie du diable, ils vont peut-être prendre un sale coup dans la rue, ils vont mourir, Seigneur. Mais mon Dieu, viens à leur secours. Quand je vous dis ça, mes frères et sœurs, ils vont mourir. Des fois, on entend des coups de feu. On entend des coups de feu. Dernièrement, j'ai appelé la police parce qu'il y avait des gamins qui chahutaient un peu trop fort. Ils sont arrivés et puis sont repartis tout de suite. On a eu une urgence pour coup de feu. Voilà, ils n'ont pas pu rester. Voilà. Prions pour les policiers, hein, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Mais on comprend que dans notre cœur, il doit y avoir, eh bien, ce fruit de l'esprit. Et mon frère, ma sœur, on est destiné à cela. Vous savez, parfois on parle de plan de Dieu, l'Écriture nous dit ici que notre identité, lui, le Seigneur, c'est le cep, et nous sommes les sarments. Les deux, le cep et les sarments, ça fait la vigne. Et le cep, c'est celui qui donne la vie, mais le sarment, c'est celui qui reçoit la vie et qui la manifeste en donnant du fruit. Et je voudrais simplement vous rappeler une chose, c'est que ce n'est pas le cep qui porte le fruit, c'est-à-dire la grappe, le raisin, mais c'est le sarment, eh bien, qui la porte. Parfois, nous aimerions, eh bien, avoir une espèce de d'avenir ou de plan sur notre carrière chrétienne en disant « moi, je serai ceci, je serai cela ». Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, on avait assisté, c'était à Bordeaux, c'était retransmis par satellite, la mission de Billy Graham. Vous vous souvenez de cela ? Je ne sais pas si vous avez participé à Montpellier, si ça se faisait. François, non, tu y étais. Voilà. Et alors, parmi les jeunes, à ce moment-là, il y avait deux héros. C'était soit Nicky Cruz ou Billy Graham. Vous voyez ? Alors, tous les jeunes voulaient ressembler. Alors même, certains, je me souviens, qui voulaient ressembler à Nicky Cruz, ils morcissaient leur témoignage pour faire comprendre qu'ils étaient des mauvais gars, quoi. Hein, et pour, ouais, voilà, moi, comme si tu savais... dans ton village, il y avait un gang. Quoi. Je savais pas qu'il y avait un gang. Voilà, mais bon, bref. Et puis, tout le monde se... Voilà. Et alors, voilà, des idées de grandeur, des idées de grandeur. Mais Jésus dit pas ça. Il dit, vous êtes les sarments. Et alors j'ai cherché dans la Bible ce que la Bible, ce que le Seigneur dit au sujet des serments. Vous savez ce que c'est les serments? On est quand même dans un pays où il y a la vie. Allez, on va aller dans Ézéchiel au chapitre 15. Vous êtes toujours là avec moi? Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, c'est le prophète, c'est juste avant Daniel au chapitre 15. Et justement, il nous est parlé là du serment, chapitre 15 d'Ézéchiel. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le serment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer, et le feu en consume les deux bouts et le brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé, qu'il est brûlé, en pourrait-on faire quelque ouvrage? Amen. Et on s'aperçoit que eh bien, le sarment, mis à part servir à faire un bon barbecue, ça ne sert à rien du tout. On ne peut pas en faire un meuble, on ne peut pas en faire quoi que ce soit. Et en réalité, toute son utilité se trouve à porter du fruit. Et peut-être que, et je m'adresse peut-être à quelqu'un qui a des idées de grandeur avec le Seigneur. Moi, je vais être ceci, je vais être cela, je vais arriver. Et si le Seigneur te révélait tout simplement, la seule chose que je veux que tu sois, c'est que tu sois un sarment qui porte du fruit là où tu es. Et que tu acceptes d'être taillé pour porter beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Le sarment, ce n'est pas tellement joli comme branche, mais ça porte le fruit. Et humainement, ça n'a pas de valeur, mais devant Dieu, ça a de la valeur. Et le vrai succès devant Dieu, c'est pas que tu prospères et que tu prospères sans cesse, sans cesse, sans cesse, mais le vrai succès, c'est que tu portes du fruit, et même beaucoup de fruits. Regardez, je vais vous donner l'exemple d'un homme qui se trouve à porter du fruit, c'est dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, voici ce que l'Écriture nous dit concernant l'apôtre Paul, et au verset 4, chapitre 4, verset 4, il nous est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Cet homme, il nous parle de quoi? Il nous parle de joie, il nous parle de paix, il nous parle de douceur, il nous parle de foi. Il a le fruit, lui. Le fruit, il a. Et pourtant, vous savez tous où il se trouve lorsqu'il écrit ça. Se trouve-vous? En prison. Il est prisonnier à cause de sa foi, mais néanmoins, il porte du fruit. Et ce fruit nous parle. Et il y a tellement de personnes qui ont bien plus que tout ça. Ils ne sont pas dans la prison, ils sont dans le confort. Ils sont dans, voilà, peut-être toutes sortes de choses. Mais le fruit, il n'est pas là. À quoi ça sert? Où est ta vie changée? Où est ta vie transformée? Papa, il va à l'église, maman, elle va à l'église. Mais, disons, les réactions, des fois, on a des ados qui voilà, nous regardent, hein, des enfants aussi, des jeunes. On reconnaît un arbre à son fruit. Le Seigneur m'a guéri, il a fait ceci. Oui, c'est bien. Merci Seigneur. Mais si c'est pour avoir ce caractère-là, on reconnaît un arbre à son fruit. Je voudrais simplement peut-être poser une question pour nous-mêmes. Est-ce qu'on accepterait d'être comme Paul, de dire « Ce que je veux, Seigneur, c'est porter du fruit. C'est entrer dans ce que tu as préparé, le plan pour moi, pour que je puisse porter du fruit. » Ce fruit, il est, vous n'en mesurez pas la portée. Vous ne mesurez pas, mon frère, nous ne mesurons pas parfois la portée du fruit, les conséquences d'un fruit, d'une vie qui est visitée par le Seigneur. Une vie qui produit du fruit, et en réfléchissant à cela, mes regards se sont tournés vers cet homme de la Bible. Je l'aime beaucoup, cet homme de la Bible. Son nom veut dire « il retranche, il ajoute ». Il y a comme un jeu de mots. Vous savez de qui je veux parler? Monsieur Laude? Joseph, il retranche. Et Joseph, c'est un homme qui va subir toutes sortes de vexations, qui va être trahi par ses frères, jeté en prison, accusé à tort, se marier avec quelqu'un, oui, il aime, mais c'est pas de sa, c'est une Égyptienne. Il exprimera vraiment le fait qu'il est dans un pays étranger. C'est un homme désolé. Et puis il accède à certaines hauteurs de responsabilité dans le royaume d'Égypte parce qu'il devient, eh bien, le premier ministre, eh bien, de ce pays. Et puis un jour, il retrouve sa famille qu'il croyait complètement perdue. Ils ne le reconnaissent pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais là, il se rend compte que, Seigneur, tu m'as fait venir jusque-là pour que je porte du fruit, pour que je sois, eh bien, en quelque sorte, le sauveur de ma famille. Mais il n'y a pas simplement la position, mais c'est la façon dont Joseph va s'y prendre avec ses frères. Et je vous relis ce texte. Je crois qu'on l'avait lu il n'y a pas tellement longtemps, mais je voudrais vous le relire. Genèse chapitre 45 et verset 5, il est dit, Joseph dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, voilà, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'a établi père de toute sa maison, etc. Et au verset 14, il nous est dit, Joseph se jeta au cou de Benjamin, son frère, il pleura. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, et après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Alléluia! Il y a un homme qui, parce qu'il s'est laissé façonner par le Seigneur, il a subi des injustices, il a été taillé dans sa chair, il a été coupé, séparé de ceux qu'il aimait, il a vécu des injustices, mais il n'a pas empêché le Saint-Esprit d'agir dans sa vie. Et peut-être que tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci, pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela, etc. Mais tu n'es pas prisonnier, eh bien, comme Paul ou Joseph dans sa prison, mais tu es prisonnier peut-être par une maladie, prisonnier par une situation difficile, familiale, que tu as dû subir, des conséquences fâcheuses. Peut-être c'est au travail, prisonnier d'une situation où tu as des collègues de travail qui sont vraiment pas sympas avec toi. C'est peut-être à la fac, c'est peut-être au collège, etc. Tu voudrais être ailleurs, mais le Seigneur utilise ces choses-là afin que, comme si d'une certaine manière, la vie, ta vie naturelle, ta vieille nature, elle ne s'exprime plus, pour qu'il n'y ait que de la place pour la vie de l'esprit et qu'il y ait un fruit. La chanter, hein? Mon espoir est en toi. Vous l'avez chanté. À chaque souffle, mon âme s'appuie sur toi. Pourquoi? Pour porter un fruit. Alléluia. C'est des belles paroles. L'auteur de ce chant, il écrit merveilleusement bien. Mais le Saint-Esprit ne veut pas simplement nous faire chanter, mais il veut nous faire porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Et je m'aperçois que dans la vie de Joseph, il n'y a eu que la place pour l'action du Saint-Esprit dans sa vie, l'action de Dieu. Et lorsque le moment est venu et qu'il rencontre ses frères, c'est pas amer, c'est pas dur, mais c'est le véritable fruit. Un amour total envers sa famille. Il m'avait fait du mal, c'est vrai, mais ce n'est pas vous qui avez échafaudé ce plan. C'était Dieu qui m'a envoyé là pour que je puisse porter du fruit, que je puisse vous sauver. Alléluia. Et je m'aperçois que, et je termine par là, hein, que les bénéficiaires du fruit, bizarrement, c'est nous aussi d'une certaine manière. Parce que quand on porte du fruit, on est rassasié. On est satisfait. Paul, il dira, mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il est content. Un cœur content, c'est un festin. Voilà. Mais je porte du fruit. Je voudrais vous dire une chose. Quand j'ai débuté le ministère, le service de Dieu, ma paye a diminué par rapport à ce que je touchais dans le civil. Alors, c'est comme si j'étais à l'armée, hein. Voilà. Je crois qu'elle a été divisée par 4. Et j'étais le plus heureux du monde. Et je disais à ma mère, à ce moment-là, elle disait, mais tu sais, je comprends même pas pourquoi on me paye. Enfin bon, voilà. Comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on me paye pour parler de Jésus. Mais c'est moi qui devrais payer. Comprenez la mentalité? Non, vous comprenez? Mais Jésus, mais je te dois tout. Tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu m'as lavé. En plus, tu me choisis pour te servir, prêcher ta parole, et je suis rémunéré pour cela. Gloire à Dieu. Alléluia. mais c'est grâce sur grâce, mais merci Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai qu'il y a des... Après j'ai appris, il y avait des difficultés, il y avait des oppositions, etc. C'est sûr, c'est compliqué. Puis après, bon, je me suis marié quelques mois plus tard et on a eu deux pays. Ça faisait du mieux quand même. Hein. Voilà. Hein. Mais voilà, et on est sur la terre quand même. Hein. Mais une satisfaction, un contentement. Et je dis, Seigneur, que jamais ce contentement s'enlève de mon cœur. Alléluia. Te servir, Seigneur. Mais ce n'est pas que pour nous-mêmes. C'est aussi le résultat, il est concret pour ceux qui sont autour de nous. Joseph, il a porté du fruit, sa famille entière a été sauvée. Alléluia. Le grand-père, la grand-mère qui est à côté de nous, le père, la mère, pour ton fils, ta fille, porte du fruit. Qu'on puisse se souvenir de toi comme quelqu'un de fidèle, qui aime Dieu. Pas uniquement quand tout va bien, mais aussi quand c'est aride. Tes sources sont dans le Seigneur. Alléluia. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tu portes du fruit en sa saison. Alléluia. Ton feuillage est vert. Tout ce que tu fais réussit parce que tu es en Christ. Alléluia. Et tu portes toujours ce fruit. Amen. Alléluia. Et plus tard, je vais être comme papa. Je vais être comme maman. Je veux avoir cette vie de prière. Je veux faire comme ceci. Je veux faire comme cela. Alléluia. Et puis, terminé là-dessus, eh bien, ce fruit, surtout, il glorifie qui ? Eh bien, il glorifie le Seigneur. Amen. Sans toi, on ne peut rien faire. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Il peut en faire de même pour moi. Seigneur, je veux aussi porter du fruit. Alléluia. Je veux aussi avoir cette paix, cette joie. Alléluia, par le Saint-Esprit. Alors que faire ? Mais tu veux porter du fruit, c'est bien. Tourne-toi vers le Seigneur. Attache-toi à lui. Sois dans cette intimité avec le Seigneur. Recherche chaque jour de ta vie, eh bien, cette communion avec ton Dieu. Lis la parole de Dieu. Mets du temps à part. Laisse-toi aimer par Jésus. Alléluia. Vis cette... Mais c'est bon de se laisser aimer par le Seigneur. Alléluia. Et on porte un fruit qui est merveilleux. Amen. Et tout d'abord, même dans le secret, mais Seigneur, que ma voix ne soit pas... Voilà. Mes frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose ? Je trouve qu'on a un peu de mal à louer Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais si on ne loue pas le Seigneur à la maison, ça va être difficile de le louer à l'église. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Prendre du temps à la maison pour louer le Seigneur. Peut-être que vous allez dire, mais je ne comprends pas, rien ne se passe. Ben oui, parce que le fruit, il n'est pas encore mûr. Chercher la présence de Dieu, chercher à être peut-être réhydraté. Si vous recevez de l'eau, de l'hydratation, l'action du Saint-Esprit uniquement le dimanche matin, vous allez être sec hein, quand même. Hein. Mais si c'est chaque jour, ben vous venez à l'église avec sur les lèvres un fruit qui loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Et. Alors il faut l'entretenir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer en rendant grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, Seigneur. Jésus, je te rends grâce pour ton grand amour. Et je veux te demander, Seigneur mon Dieu, afin que nos vies produisent du fruit. Seigneur, combien c'est important, Seigneur, que nous portions ce fruit, l'amour de Dieu, la fidélité, la patience, la bonté, la joie, la bienveillance. Seigneur, ces choses, Seigneur, si elles sont absentes de nos vies, ne reflètent pas Jésus. Et Seigneur, si, Seigneur, nous ne reflétons pas ce que tu es, alors nous ne t'appartenons pas. Seigneur, combien nous avons besoin de comprendre que ton œuvre ne s'arrête pas au salut de nos âmes, mais elle, Seigneur, se perpétue et continue dans la transformation de notre vie tout entière. Seigneur, qu'il y ait ce matin dans nos cœurs comme un réveil spirituel pour dire, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que ma vie porte du fruit, un fruit à ta gloire. Alléluia. Seigneur, dans mon travail, dans ma famille, Seigneur, dans les situations diverses et variées que je traverse, peut-être de ce célibat, de Seigneur, ce temps de chômage, peut-être de cette difficulté professionnelle, Seigneur, que rien ne vienne m'empêcher de porter du fruit, de te louer, de te glorifier, Seigneur, afin que Seigneur, ma vie ne soit pas une vie rétrécie, amère, mais une vie au contraire épanouie, comme cet apôtre qui pouvait dire, mais je suis content d'être dans l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être content, à être satisfait, parce que tout dépend de Jésus. Alléluia. Ma vie dépend de Jésus. Alléluia. Avant de terminer, que vous puissiez dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Alléluia. Et je vous assure que si vous allez, si vous mettez votre foi dans le Seigneur en disant, voilà, je dépends de toi, une grande paix va vous envahir. Des inquiétudes vont, vous allez accepter la situation que vous traversez et Jésus va pouvoir vous hydrater, vous bénir. Alléluia. Mais si vous crispez, fermez, il va rien ne se passer. Laisse le Seigneur agir. Dis, Seigneur, je veux dépendre de toi, Seigneur. Alléluia. Je veux t'aimer et je veux me laisser aimer par toi. Amen, Seigneur. Quelques instants. Merci. À toi la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. On se retrouve mardi. On se retrouve vendredi.